Le roi d'Israël a été contesté et avant le Seigneur Jésus lui-même, le premier véritable roi d'Israël selon l'Esprit de Dieu, David, a été contesté. Il a supporté beaucoup d'opprobre et je vais lire avec vous ce matin le texte où il est probablement dans la période la plus douloureuse de sa vie de roi. Dans 2 Samuel chapitre 15, versets 10 à 37 tout d'abord. C'est la révolte en fait de son fils Absalom. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz « Absalom règne à Hébron ». 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité et sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher à la ville de Guilo Achitophel, le Guyonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent « Tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. » Le roi sortit et toute la maison le suivait, et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés, et tous les Gathiens, au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Ittai de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous ? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous, ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Ittai répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant, et mon seigneur le roi est vivant, au lieu où sera mon seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre. » Là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Ittai, « Va, passe. » Et Ittai de Gath passa, avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes, et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron, et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Tsadok était là aussi, et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'Alliance de Dieu, et ils posèrent l'arche de l'Alliance et Abiathar montait, pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tsadok, « Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, « Je ne prends point plaisir en toi, me voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Le roi dit encore au sacrificateur Tsadok, « Comprends-tu ? Retourne en paix dans la ville avec Achimath, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiathar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. » Ainsi, Tsadok et Abiathar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et ils y restèrent. David monta à la colline des Oliviers. Il monta en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvraient aussi la tête, et ils montaient en pleurant. On vint dire à David, « Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. » Et David dit, « Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. » Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant l'Éternel, devant Dieu, voici Hushaï l'Archien vient aussi au devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, « Si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel si tu retournes à la ville, et que tu dises à Absalom, Ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les sacrificateurs Tsadok et Abiathar ne seront-ils pas avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tsadok et Abiathar. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs deux fils, Achimaatz, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiathar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Hushai, ami de David, retourna donc à la ville, et Absalom entra dans Jérusalem. C'est réellement le temps de la douleur pour David, puisque c'est son propre fils, Absalom. Il y a toute une histoire donc avec Absalom et sa fierté et son ambition. Et là, c'est le moment où Absalom veut prendre le pouvoir. Donc, période la plus douloureuse de la vie du roi David. Et on peut dire qu'une misérable conspiration est fomentée contre le roi prophète, qui ressemble à toutes les conspirations, tous les coups d'État de l'histoire pour déposer le pouvoir légitime. Ça se produit et ça se reproduira encore partout dans le monde. C'est la manière de faire des hommes de ce monde, en fait. Or, s'il est un pouvoir légitime, c'est bien celui du roi David, qui avait patienté pendant 7 ans, poursuivi par Saül, qui n'a jamais cherché à s'emparer du trône alors qu'il avait la promesse, alors qu'il avait été oint, qui n'a jamais porté la main sur celui qu'il appelait loin de l'Éternel, parce que David avait été loin, lui, Saül, avant lui, avait été loin, lui aussi. Et David ne se serait pas permis de porter la main sur Saül, même que Saül avait été désobéissant et avait failli dans sa mission de roi. Et ce roi David n'a été intronisé qu'après la mort de Saül, qui est venu par l'Éternel et non pas par la main de David. Il avait toute la légitimité parce qu'il avait été choisi par Dieu, non pas par le peuple, alors que Saül était le roi du peuple, en fait. Et David était donc vraiment le roi selon le cœur de Dieu pour conduire. Il est écrit d'ailleurs, le peuple avec un cœur intelligent, des mains intelligentes, il était intègre en toutes choses devant Dieu. Il n'était pas sans faiblesse, plusieurs passages en témoignent. Mais il était bien le roi voulu, établi par Dieu. Le meilleur conseiller de David prend le parti de son fils. Puis nous verrons un peu plus loin que David n'est pas seulement chassé, mais il va être également maudit. Alors son attitude de roi contesté est exemplaire. On parlait la semaine dernière de l'humilité. Il dit ici, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera. Il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Il est totalement soumis à la volonté et la puissance de son Seigneur. Alors bien sûr qu'il agit en sage et en stratège, il place des hommes, il fuit, mais il place quand même des hommes pour être son secours, on peut dire, auprès, dans la nouvelle cour qui s'est installée. Hein. Mais en fait, il ne veut pas d'une Jérusalem mise à feu et à sang. Il le dit, hein, si nous contestons et que nous nous battons contre Absalom, eh bien, il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. C'est ce qui se passe lorsqu'il y a toutes ces contestations, tous ces coups d'État. Je ne vais pas citer de nom, mais actuellement, on entend parler de villes qui sont à feu et à sang parce que l'un a voulu prendre le pouvoir au détriment de l'autre. Et ça fait des combats à n'en plus finir et de grandes destructions. Or, si Jérusalem avait été attaquée de l'extérieur par des ennemis, bien sûr que le roi David l'aurait défendu. Mais une dissension interne ne pouvait pas se régler à la manière du monde. C'est une question de légitimité devant Dieu, de l'autorité du Seigneur sur sa ville. Jérusalem est la ville du grand roi, la ville de la paix, c'est son nom. Si sa gouvernance divine n'est pas reconnue, alors la cause doit aller à Dieu pour le salut de tous dans la ville. C'est à toi que je crie, ô Éternel. Celui qui sauve la ville de Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas David qui pouvait sauver son propre pouvoir et sauver la ville. Il fallait qu'il remette sa cause à Dieu. Donc il choisit l'opprobre. Il s'enfuit. Le verset clé pour moi de ce passage, c'est le verset 30. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvraient aussi la tête, et il montait en pleurant. David qui gravit cette colline dans la confusion, puisque se couvrir la tête, c'est bien ce geste-là, ce visage qui reflète la gloire, la beauté, la lumière divine, ce visage est confus. Il est dans l'opprobre et il vaut mieux le couvrir, il vaut mieux le cacher. C'est ainsi que David s'avance. Et il avance aussi nu-pied, blessé par les aspérités du terrain, certainement. Mais voilà, dépouillé en fait, dépouillé de ses chaussures et en pleurant. David pleurait. Les hommes de Dieu, lorsqu'ils voient le désastre du peuple de Dieu, pleurent. Un autre exemple, c'est le prophète Jérémie qui reprenait le peuple et qui était contesté, bien sûr, terriblement, qui a été mis en prison, qui a été mis dans une fosse, etc. Et à plusieurs reprises, je ne vous citerai qu'un seul passage dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, versets 48-51. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville, jusqu'à ce que l'Éternel regarde. Le prophète pleure cette désolation qui est dans la ville. Bien sûr que Jésus lui-même a pleuré. Jésus a pleuré à deux reprises. Il a pleuré devant le désarroi de la famille de Lazare, des sœurs de Lazare. Verset le plus court de l'évangile, Jésus pleura. Mais il a pleuré aussi devant Jérusalem. Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus est face à la ruine de Jérusalem, qui justement ne reçoit pas son roi. Et il pleure sur la ville. David ne pleure pas seul. Ses compagnons pleurent avec lui. Il est accompagné. Plusieurs sont restés solidaires, ceux de sa garde rapprochée d'ailleurs, qui étaient d'ailleurs des étrangers. Et puis cet Ittai qui s'attache à lui avec tous ses serviteurs, ils étaient 600, si j'ai bien lu. Et voilà, David ne veut pas l'entraîner dans cette confusion, cet opprobre. Mais voilà la réponse d'Ittai, c'est la réponse du croyant. Ittai répondit au roi et dit « L'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » Soit pour mourir, soit pour vivre. C'est ce que l'apôtre Paul dit au sujet des apôtres, de lui-même et des chrétiens. Soit pour vivre, soit pour mourir, nous sommes au Seigneur. Ça, c'est la grande déclaration du croyant. Il est avec le Seigneur, soit pour vivre, soit pour mourir. Et nous sommes donc les compagnons aussi de Christ qui partageons son opprobre. Dès le commencement de l'histoire d'Israël, Moïse a choisi l'opprobre de Christ. Hébreux, Épître aux Hébreux, donc au chapitre 11, en rend témoignage, versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Si Moïse a choisi le peuple d'Israël plutôt que la direction de l'Égypte, c'est par amour de Christ, c'est en comprenant l'opprobre que Christ supporterait pour son peuple. Alors, cette même épître aux Hébreux nous appelle nous-mêmes au chapitre 13, versets 13 à 14. Christ a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Toujours la question de la cité choisie par Dieu, la cité où Dieu régnera. Et dans ce monde, nous ne pouvons pas trouver de cité, même si Jérusalem est un symbole et un exemple de cette cité de Dieu. Mais en réalité, nous ne pouvons pas trouver de cité autre que la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. C'est celle-là que nous désirons habiter, celle où Dieu est le roi et le Seigneur. Et dans ce monde, on peut dire que nous sommes déclassés. Nous portons l'opprobre de Christ. Paul le dit d'une autre manière dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 11. « et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voilà le chrétien qui cherche la résurrection des morts, mais qui, pour l'obtenir, cherche aussi la communion des souffrances de Christ. Arrivé au sommet, David se prosterne devant Dieu. Et après, d'autres le rejoignent également. Je reprends le texte. C'est Hushaï l'Archien. Tunique déchirée, tête couverte de terre, autre signe bien sûr de désolation, d'humiliation. Mais là, David ne le garde pas avec lui, donc il agit, comme j'ai dit au début, en stratège, c'est-à-dire qu'il renvoie Hushaï pour qu'il soit, on peut dire, son conseiller auprès d'Absalom. Et Hushaï va effectivement mettre en échec les conseils d'Achitophel. Et il va permettre que David puisse organiser, on peut dire, sa défense et son salut. Mais voilà, David, arrivé au sommet, se prosterna devant Dieu. Les hommes de Dieu se prosternent devant Dieu, ils lui remettent toutes choses, ils l'adorent, quelle que soit la circonstance. David est soumis au Seigneur et il le glorifie. C'est là qu'interviennent après ces malédictions qui vont renchérir encore sur la souffrance de David. Je prends en 16 à partir du verset 5. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à droite et à gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül. Toi dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Certains hommes ne comprennent pas les plans de Dieu. Ils n'entrent pas dans la vision de Dieu, ils ne comprennent pas les plans de Dieu. Par parti pris, c'est un homme de la famille de Saül, et il traite David d'usurpateur. Il n'a pas compris que c'est Dieu. Il n'est pas soumis à la volonté de Dieu. Il faut prendre garde à ne pas rester sur des impressions qui sont des impressions humaines, des causes humaines. Là où Dieu a parlé, là où Dieu a fait son œuvre. Et lorsque Dieu installe son royaume, eh bien, nous devons le rejoindre dans son plan et ne pas chercher toujours à défendre notre vision, nos intérêts humains. Alors Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, Pourquoi ce chien mort ? Maudit-il le roi mon seigneur. Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit : « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja ? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit : maudit David. Qui donc lui dira : pourquoi agis-tu ainsi ? » Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs : « Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse. Car l'Éternel lui a dit : peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. S'il maudisse, tu béniras. » C'est ça qui conduit David à ne pas intervenir pour faire cesser ses malédictions. Parce que l'Éternel est celui qui, en retour des malédictions, apportera du bien. David et ses gens continuèrent leur chemin et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Ajephim et là, ils se reposèrent. Les malédictions de Shimei annoncent les malédictions de tous les Juifs qui se ligueront contre Jésus. Jésus, lors de son procès et à la croix, a été maudit par le peuple et les responsables du peuple en particulier. Je vais prendre dans Marc, chapitre 15, versets 16 à 20. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Jésus n'a pas seulement été crucifié, il a été moqué. Pareil, versets 24 à 32. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots : le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture : il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant : hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même et descendent la croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient : il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Voilà ce que le Seigneur Jésus a supporté : l'insulte, la moquerie et l'insulte. Écoutez, frères et sœurs, si quelqu'un a une fois insulté quelqu'un d'autre, qu'il s'en repente. Si une fois, en tant que chrétien, vous avez pu insulter quelqu'un d'autre, mépriser, faire preuve de moquerie, vraiment repentez-vous. Tous ceux qui insultent ne sont pas dans la pensée de Dieu. L'apôtre Paul dira dans son épître aux Romains, chapitre 12, verset 14, très très simple parole. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. quand bien même vous êtes maudit, quand bien même vous êtes insulté. Parce que les insultes viennent généralement après que l'on se soit senti soi-même mis en cause et insulté. Quand ce n'est pas voilà, quelqu'un qui, de son propre fond, parle mal aux autres. Mais en règle générale, les insultes vont, on peut dire, en s'augmentant en réponse à des paroles d'autrui. L'apôtre, toujours Paul, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Injuriés, nous bénissons. Nous sommes réservés pour la bénédiction en tant que chrétiens. Une fois, c'était la marche pour Jésus. Et à la fin de la marche, il y avait le rassemblement donc pour annoncer l'évangile. Et puis au cours de ce moment-là, il y a des perturbateurs quoi, qui sont arrivés. Et alors certains chrétiens qui étaient là autour là, et qui voulaient donc empêcher cette perturbation... À un moment donné, le ton est monté et voilà, un des chrétiens qui était là les a renvoyés en disant « Mais soyez maudits !» Ah, j'ai dit « Non, on ne maudit pas ici, enfin. » Parce que, voilà, à force d'irritation et d'échauffement, ce sont ces réactions naturelles qui peuvent revenir. Nous ne maudissons personne. Et le mont des Oliviers est bien là pour nous montrer la victoire de ceux qui se confient pleinement dans le Seigneur. Puisque le roi contesté, David, a monté dans l'opprobre, la montagne des Oliviers, il dit, hein, la montagne des Oliviers qu'il montait à ce moment-là, humilié. Eh bien, cette montagne des Oliviers, c'est celle que Jésus a descendue en étant acclamé comme le roi d'Israël, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est de là, du sommet, qu'il est descendu jusque Jérusalem, et qu'il a été acclamé sur cette montagne des Oliviers. C'est aussi sur cette montagne des Oliviers qu'il a rassemblé une dernière fois ses disciples après la résurrection pour leur donner ses dernières instructions. Et de là, il est monté au ciel devant les apôtres réunis. Et c'est sur ce mont des Oliviers qu'il posera ses pieds à la fin pour être le roi de toute la terre. Voilà la victoire. La victoire de celui qui a obéi jusqu'au bout, qui s'est confié totalement en Dieu. Le mont des Oliviers est le théâtre de la véritable intronisation. Jésus-Christ, qui a été rejeté par les hommes, a été établi roi pour toujours. Roi pour tous, roi éternel. Amen.